One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, salut amis auditeurs, nous sommes au mois de mars et le prénom du mois c'est Christiane. Vous êtes d'accord mes amis?
Je croyais que c'était Monique.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est Christiane, c'est le prénom de l'année.
C'est le prénom de l'année.
Attends, moi j'attends Dominique aussi. Hein.
Tu attends Dominique?
Ah oui, ben moi non. J'attends...
Dominique en octobre.
Ah oui, c'est vrai, ça a été repoussé. Et flûte
ouais,
alors.
C'est pas tout
Dominique,
suite.
Nique.
Ben oui, pourquoi pas Monique aussi, enfin, je sais pas.
Non, alors on va dire que le prénom de l'année, c'est Christiane, peut-être Dominique aussi, mais le prénom du mois, c'est Monique.
Vous n'avez rien compris, c'est
non,
normal.
Non, mais on va préciser. Alors Monique, pourquoi Ariane ou Ghislain, qui des deux se lance?
Ariane, attends.
Ariane.
Parce que Wittig.
Parce que Wittig, c'est la bonne réponse. Tu reviens en deuxième semaine.
Et en troisième et en quatrième.
Par exemple. Ouais. Oui, on a choisi de consacrer tout le mois de mars à une personnalité essentielle, Monique Wittig.
C'est pas le mot. C'est marrant.
Alors, on y reviendra.
Alors là, ça commence bien.
J'ai dit essentiel et non pas essentialiste.
Très juste.
N'est-ce pas? Oui, Monique Wittig, qui n'est pas finalement si connue que ça, alors qu'elle occupe une place vraiment déterminante, plus d'un titre, alors déjà dans la littérature française.
Ah, c'est donc un écrivain.
Elle est écrivain, elle est romancière, elle est essayiste, mais elle commence sa carrière dans les lettres françaises comme...
Enfin, on peut dire elle était parce que je voudrais pas... Enfin, elle est morte à la fin.
Elle est morte à la fin. Si tu racontes la fin, ça va pas, ça.
Elle est morte en 2003 en Arizona, je crois, à Tucson, où elle a fait toute une partie de sa carrière, puisqu'elle a quitté la France au milieu des années 70.
D'accord, donc c'est un écrivain français contemporain, d'accord.
Oui, oui, oui. Alors, elle a commencé par des romans dont le premier s'appelle « L'Opoponax » au milieu des années 60, dans la mouvance un peu du nouveau roman. Sarote, Duras, etc. Elle a obtenu un prix avec ce premier roman au milieu des années 60, donc soutenu par Marguerite Duras. Et s'en sont suivis deux ou trois autres romans aussi importants qui sont... Ariane, tu veux en dire un mot peut-être?
Non, je voulais parler de l'Opoponax parce qu'il a quand même une particularité formelle qui est importante et sensible quoi, au regard de son œuvre.
Ouais.
Voilà. Donc il y a un travail particulier autour des pronoms, en particulier au niveau de l'Opoponax, où on va avoir beaucoup de « on ».
Oui,
en fait.
Ouais.
Voilà.
C'est un choix délibéré. Alors, on va comprendre petit à petit, au fur et à mesure des émissions qu'on va faire, pourquoi. Il y a un travail énorme qui est fait sur la langue dans les romans de Monique Wittig et qui débouchera après sur carrément en fait des essais. Et on va beaucoup parler au cours de ce mois de son essai sans doute le plus reconnu, on va dire, qui est La Pensée Straight.
Alors en fait, La Pensée Straight, c'est une compilation en fait de textes.
Exact.
Donc c'est pour ça que voilà.
Best of.
Ouais. Ouais, non, si on peut parler en anglais, vu que voilà, l'Arizona, tout ça. Donc oui, c'est un recueil en fait de différents textes d'essais, de conférences aussi qu'elle a pu donner, dont certains en France et avant son départ, et des textes qui ont été perdus. Donc ce qu'on a aujourd'hui dans le volume de la pensée straight, plus ou moins disponible, il y a des textes qui ont été à l'origine écrits en français. Mais le français d'origine a été perdu et il a fallu les retraduire de leur version américaine.
Mmh. Et pourquoi elle nous intéresse, cette dame ?
Pourquoi elle nous intéresse à plus d'un titre ?
Parce qu'il y en a plein d'écrivains français qui ont reçu des prix et tout ça, tu vois. Pourquoi elle en particulier ?
Mais ce qui est intéressant, je trouve, il faut que je vous dise que j'ai eu un gros acte manqué.
Oui, vas-y, raconte-nous, on va commencer par ça.
J'ai voulu faire un micro-trottoir sur Monique Wittig. Et donc, c'était très simple, j'avais que deux questions. Je disais, si je vous dis Monique Wittig, à quoi pensez-vous ? Et si je vous dis, les lesbiennes ne sont pas des femmes, à quoi pensez-vous ? Et donc, les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est donc une citation fameuse de Monique Wittig parce qu'elle a marqué en son temps et aujourd'hui encore. C'est une phrase qui choque beaucoup de gens. Et justement, la personne qui m'a dit le plus clairement son indignation devant cette phrase, eh ben, j'ai pas réussi à l'enregistrer. Et pourtant, il a été super gentil. Il me l'a refait une deuxième fois avec presque autant d'émoi que la première, alors que je lui avais déjà dit « Non mais tu vois, Monique Wittig, c'est... voilà, nanana. » Et il me l'a refait. Eh ben, j'ai toujours pas réussi à l'enregistrer.
Et qu'est-ce qui le choquait dans cette
Ce qu'il entendait, en fait, c'était... il l'entendait d'un point de vue péjoratif, c'est-à-dire que les lesbiennes perdraient leur féminité par leur orientation sexuelle, et c'était dégradant. Voilà. Alors que... voilà, il faut donner son contexte à cette phrase. Donc, Monique Wittig a fait partie des chevilles ouvrières et même fondatrice des mouvements féministes en France.
Oui, ouais, c'est une précurseur en la matière. Ouais.
Et,
des fondatrices du MLF, d'ailleurs. Ouais.
Voilà, et du coup, quand elle dit « les lesbiennes ne sont pas des femmes », c'est avec un regard sur le terme « les femmes » en tant que groupe social. Et donc, les femmes, avec tous les attendus explicites et implicites au regard de la société de cette époque, et puis on s'en rend compte encore aujourd'hui, et c'est plein d'attendus implicites et de conformisme qu'on rencontre encore aujourd'hui. Et donc, par exemple, il y a la présomption d'hétérosexualité parmi ces attendus-là. Il y a aussi la présomption de désir de maternité. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc, Monique Wittig considère que les femmes en tant que groupe social sont un groupe opprimé. Donc, elle fait le constat d'une oppression sexiste. Elle se place encore dans une perspective où on pourrait parler de domination masculine. Du coup, pour s'affranchir de cette domination, et j'utilise affranchir en analogie avec ce qu'on a pu connaître avec l'esclavage, être lesbienne est une des façons de s'extraire de la classe sociale femme, voilà. Puisqu'on est en infraction avec les attendus sociaux. Voilà. Et donc les lesbiennes ne sont pas des femmes, ça n'est en rien péjoratif.
Au contraire.
De ce point de vue-là.
Alors, ouais,
moi, je ne voudrais pas dire du mal des femmes qui se complaisent dans leur situation conforme. Donc, je suis pro-choix. Tu fais ce que tu veux tant que tu ne m'empêches pas, moi, de faire ce que je veux. Ça te regarde. Donc, non, mais voilà, il n'y a rien de péjoratif à ne pas se considérer femme. Heureusement, puisque moi, personnellement, je ne me considère pas femme. Et c'est pour des raisons qui ne sont pas lointaines de celles que décrit Monique Wittig.
Mais donc, elle va loin, en fait, puisqu'elle appelle carrément toutes les femmes à se soulever et d'une certaine façon, sans forcément que ça corresponde à une orientation sexuelle, mais à devenir lesbienne pour se libérer du joug oppresseur de l'homme. En fait,
voilà, et d'utiliser le terme lesbienne pour être transfuge à sa classe femme. Voilà.
C'est ça qui est intéressant aussi chez elle, c'est que ce que nous, on nomme catégorie de sexe, elle appelle ça des classes. Tu vois, elle assimile ça aux classes sociales. C'est un autre point de vue et c'est vachement intéressant du coup dans son propos.
Mais ce qui est surtout vachement intéressant, c'est par rapport à l'époque où c'est proféré, parce qu'on est avant tout ce qui est queer, on est avant le questionnement genre, sexe, genderfuck, intersexe, etc. Ça n'avait pas la même place non seulement sur la scène médiatique ou publique, mais même au niveau de, des connaissances scientifiques de ce point de vue-là, on n'en était pas du tout là, quoi. Mmh. Et donc, de regarder cette... je vais déjà dire dichotomie, mmh. Comme une création socioculturelle, c'était... moi, je trouve ça vachement fort, quoi, pour mmh. l'époque. Mais peut-être qu'on le trouve très fort parce que aujourd'hui encore, alors que les connaissances scientifiques, sociologiques, etc. ont avancé, le propos de Monique Wittig reste, révolutionnaire.
Oui, ouais. Non, mais et révolutionnaire, oui, tu as raison.
Extrêmement oui. Subversif mmh. de mmh. l'ordre actuel, alors qu'on est au moins 30 ans plus tard, quoi.
Mmh. Alors... en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as précisé, c'est bien avant effectivement toutes les théories queer, toutes les remises en question des notions de genre.
C'est vieux comme moi, c'est facile.
Rappelle-nous ton âge. Non, mais effectivement, au début, au milieu des années 70, faut rappeler aussi qu'à un moment, Monique Wittig a fait partie du phare du Front d'Action Homosexuelle Révolutionnaire, que à un moment, dans ce mouvement-là, il y a eu clivage et une partie des femmes, pas forcément lesbiennes, mais des femmes qui faisaient partie, qui pouvaient se reconnaître dans ce mouvement, ont trouvé qu'il y avait un petit souci quand même, que certains de leurs certains membres du groupe, notamment certains hommes, pouvaient faire preuve d'une certaine misogynie.
Mais c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui. Quand on a mmh. fait une émission à l'époque où on ne se rendait pas compte de ce que véhiculait osé le féminisme, je me rappelle très bien d'avoir mis en valeur à l'époque leur suivi des prises de parole. Et je me rappelle ta réaction, c'était génial. Parce que donc, elles avaient observé qu'une plus grande proportion d'hommes s'exprimaient, et ce, en plus, sur des durées plus longues. Mmh. Et donc, moins de femmes s'exprimaient en proportion par rapport aux présentes et sur des temps plus courts. Et t'avais dit, mais c'est bien, ça veut dire que les femmes sont plus concises. Mais qu'est-ce qu'il était trop fort, ce Philippe ! Et moi, alors qu'avant que tu le dises, j'avais été incapable de lire la situation comme ça. Et pour moi, c'était vraiment, les femmes n'osent pas prendre la parole, spécialement quand il y a des hommes présents et qui prennent, voire accaparent la parole. Je pouvais pas envisager, avant que tu le dises, mais jamais j'avais imaginé cette lecture de la situation. C'est très très drôle.
Donc en gros, les lesbiennes ne sont pas des femmes et les PD, c'est bien des hommes ?
Certains peut-être. En tous les cas, certains pouvaient faire preuve effectivement d'une certaine misogynie. Ce qui a poussé donc à ces femmes-là, qui faisaient partie du phare, à s'extraire du mouvement et à créer le premier mouvement de lesbiennes radicales, qui était les Gouines Rouges.
Les Gouines Rouges.
Ouais, tout à fait. Dont Monique Wittig est une des initiatrices. Voilà. Donc ça, c'est au milieu des années... début des années 70, je crois que c'est 71, 72, dans ces eaux-là. Par rapport à ça, il faut que tu... Peut-être qu'on évoque aussi le clivage que ça a pu entraîner au niveau des mouvements féministes. Je pense que tu es bien placée pour le faire, peut-être, Ariane.
Mais moi, j'en avais pas mal entendu parler. Je comprenais pas bien. Voilà. Et c'est vrai qu'en lisant La pensée straight et les textes introductifs qui sont présents dans l'édition là, qui est sur le plateau en ce moment même, donc aux éditions Amsterdam. Donc il y a trois textes introductifs. Donc si vous n'avez pas encore lu La pensée straight, par contre, je vous conseille de les lire seulement après.
Donc là, vous pouvez aller boire une bière, faire pipi et revenir dans 30 secondes.
Non, mais voilà, je vais juste en parler un tout petit peu. Donc en effet, voilà, la phrase donc, « les lesbiennes ne sont pas des femmes » a été pas très bien reçue par l'auditoire, hein, puisqu'il s'agissait d'une conférence. Et en effet, c'est un moment un petit peu nodal qui a participé donc, au départ de Monique Wittig, pas seulement elle, hein, son changement de domiciliation d'un côté à l'autre de l'Atlantique, mais aussi par rapport à son implication dans les mouvements et dans... la diffusion de la pensée, puisqu'elle a été écartée des rédacteurs des questions féministes en France, qui était donc l'équivalent de Feminist Issues outre-Atlantique. Et outre-Atlantique, elle faisait partie permanente quoi, du comité de rédaction. Donc voilà, la différence d'accueil de sa pensée, de son propos et de ses pratiques aussi, j'imagine, était vraiment très diversement accueilli de part et d'autre de l'Atlantique. Et c'est vrai que je pense que cette phrase, compte tenu de l'effet qu'elle peut encore avoir aujourd'hui, je trouve que c'est assez symptomatique, oui, de ce qui a pu faire le clivage. Mmh. Et voilà, on parlait d'essentialisme tout à l'heure. Donc oui, le mouvement essentialiste en France a pris une place quand même très importante, qui fait en effet aujourd'hui qu'on s'imagine qu'il y a une essence féminine singulière. On nous parle encore de la femme. Mmh. Donc voilà, c'est la période, hein, le 8 mars, comptez dans les médias combien... Enfin, essayez de comparer l'occurrence de Journée de la femme et Journée internationale des droits des femmes. Comparer les occurrences des deux façons de désigner la journée, c'est édifiant, quoi.
J'ai allé voir sur une liste des journées mondiales de machin truc, il y avait tout classé par mois, toutes les journées mondiales qui existaient, en fait. Mmh. Et le 8 mars, c'est bien la Journée mondiale de la femme.
C'est quoi ton site? Parce que c'est la Journée internationale des droits des femmes.
Ouais. Bah, c'était écrit
comme ça.
C'est
quoi ta source, quoi?
C'était écrit comme ça sur ce site qui recensait justement toutes les journées mondiales. J'ai beaucoup pensé à toi, d'ailleurs.
Ouais, bah voilà. Et donc je répète, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Donc c'est pas censé célébrer un éternel féminin. N'allez pas vous faire les ongles.
Et alors c'est quelque chose contre lequel elle s'est tout de suite et toujours insurgé, Monique Wittig. La femme, pour elle, ça ne signifie absolument rien du tout.
Alors justement, si, ça signifie fort. Et du coup, elle le traite à part entière. Elle écrit « la-femme ».
Elle
en fait une expression en soi. Et justement, elle décrit l'oppression. C'est au-delà du sexisme, c'est-à-dire qu'en plus qu'il y ait une différenciation, en plus, on t'impose un modèle unique de féminité. Ouais, quoi.
Donc c'est quelque chose qu'elle dénonce, en fait.
Ah oui, très clairement. Mmh. Bah, dans le recueil de conférences et d'essais La Pensée Straight, il y a un chapitre entier où il est question de cette expression qu'elle soude, quoi, la femme.
Mmh. Avec tout ce qu'on lui demande. Donc un truc qui m'a vachement marqué, ouais. C'est la reproduction forcée. Parce qu'en fait, ben, j'avais jamais envisagé les trucs comme ça. Tu vois, la reproduction forcée, c'est-à-dire le fait, la femme, elle est... En gros, l'homme se l'approprie pour reproduire, quoi. Pour reproduire l'espèce, pour reproduire le modèle
son
social,
nom aussi, c'est aussi
ambiant.
Bah effectivement, c'est un rôle qui lui est assigné, qu'elle en ait envie ou pas, de toute
bien
façon.
Sûr.
Oui, voilà. Et puis quel est l'espace pour son envie quand l'attente implicite, sociale, voire explicite, avec toutes les politiques natalistes qu'on peut connaître, je vais dire n'est-ce pas, vive le queer, blablabla. Il y a pas si longtemps, d'ailleurs c'est la dernière fois que j'ai vu un gynéco, c'est très mal, ne faites pas comme moi, allez chez votre gynéco régulièrement. Mais voilà.
Ça fait longtemps que je ne suis pas allée.
Oui, moi non plus. Mais il est un peu déménagé, bien, donc je ne sais plus où il est.
Et donc oui, le gynéco a refusé de... parce que bon, j'ai pas de problème de contraception, bien sûr, mais...
Tu veux dire que ton ami est infertile?
Au moins autant que moi. Mais voilà, j'ai le malheur d'avoir des règles très très douloureuses, donc voilà, je peux tomber dans les pommes, tout ça, donc il était nécessaire, je voulais un traitement, quoi, ne pas être handicapée dans ma vie mensuelle, on va dire. Et il a tout simplement refusé d'évaluer avec moi les autres outils contraceptifs disponibles, parce que de son point de vue, il pouvait toucher à ma fertilité et que j'étais pas qualifiée, selon lui, pour dire que définitivement je voudrais pas d'enfant. Donc le médecin a refusé que moi-même je prenne la... Et là, je vous parle des années 2000, hein, je vous parle pas de... Voilà.
Tu en as tiré quelles conséquences? Tu changes de gynéco ou...
Ah ben, j'y vais même pas retourner, tu vois. C'est pas bien, ne faites pas comme moi.
Pause musicale?
Bah, qui tombe à pic.
Allez.
Thank you.
Alors ça, c'était la pause qui tombe à pic, puisque le groupe...
Ou à plat, je ne sais pas.
Le groupe, c'est La Femme, et leur titre, c'est La Femme. Ouais. Ça t'a beaucoup plu, Ariane. Bon, on va enchaîner par une petite citation de Monique Wittig. Alors, le matriarcat n'est pas moins hétérosexuel que le patriarcat. Seul le sexe de l'oppresseur change. Cette conception, outre qu'elle reste prisonnière des catégories de sexe, femme et homme, maintient de plus l'idée que ce qui seul définit une femme, c'est sa capacité de faire un enfant.
Ben voilà. On parlait de pensée subversive, voilà. On est en plein là-dedans. Et c'est toujours d'actualité. Et,
c'est vrai, ça, la sommation de devenir mère pour être pleinement femme, c'est encore extrêmement présent.
Ouais,
hein.
C'est très présent, c'est très fort encore. Hein.
Ouais. Et moi, il y a quelqu'un que. Toi, tu aimes bien Monique Wittig. Moi, j'aime bien Monique Wittig et j'aime bien Elisabeth Badinter aussi.
J'ai pas dit que j'aimais pas Elisabeth Badinter.
Mais j'ai pas dit ça non plus. Mais
Elisabeth Badinter qui, par contre, fait débat. Elle est assez mal perçue par une partie.
Oui, parce qu'elle, au moins, on l'entend. Tu vois, Monique Wittig, on l'entend pas, donc ça fait pas trop débat. Mais Elisabeth Badinter,
C'est-à-dire qu'elle est un peu morte, Monique aussi. Donc,
mais je t'emmerde.
Il y a très peu, finalement. J'allais dire, c'est compliqué de trouver des infos sur Monique Wittig. Pas tant que ça. Hein. Vous tapez sur le net et comme c'est quelqu'un, encore une fois, dont les thèses restent révolutionnaires. On trouve un certain nombre de choses quand même sur elle, sur le net et ailleurs. Mais ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, la pensée straight, alors, rupture de stock
dans
toutes les librairies de Montpellier. 2 à 3 semaines de délai pour l'obtenir sur des sites internet.
Et je crois que ça n'existe pas en poche. Hein.
Et ça n'existe pas en poche. Voilà. Non. C'est pas très cher cependant, mais ça n'existe pas en poche.
Des essais en poche, c'est pas non.
Ben si, regarde.
Il y en a un certain nombre.
Oui,
voilà.
Elisabeth Badinter.
Fausse route.
Donc Elisabeth Badinter.
Pourquoi je parle d'Elisabeth Badinter? C'est parce que en fait, Monique Wittig, elle est obligée de partir aux États-Unis. On a vu ça tout à l'heure parce qu'elle était elle proposait des choses qui étaient complètement révolutionnaires. Et aujourd'hui, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que le féminisme aujourd'hui, c'est une seule voix, c'est une parole officielle, celle qu'on entend. Et dès qu'on sort un peu de cette parole officielle, on est mis au banc, on n'est pas forcément féministe quand on n'est pas dans cette parole officielle.
Et en tout cas, t'es dénié, c'est que pareil, tu veux pas être maman, t'es pas une vraie femme.
Ouais, voilà, c'est ça.
T'es contre l'allaitement, t'es pas une vraie féministe.
Ben voilà, ben c'est pour ça
et
que
du coup, tu vas
et c'est pour ça que je parlais d'Elisabeth Badinter, qui est un peu, je trouve, iconoclaste justement par rapport à cette parole-là. C'est-à-dire, elle est toujours en rupture par rapport à cette parole officielle. Elle apporte un autre point de vue qui, quelque part, est assez proche de celui de Wittig. Je connais pas suffisamment Badinter pour dire si c'est totalement en accord, mais en tout cas, c'est assez proche sur certaines choses. Et c'est pour elle, elle est vachement décriée quand elle joue à son truc sur l'allaitement, quand elle parle de la GPA, quand elle parle de la prostitution, là, quand elle parle dans Fausse Route,
du
travail du sexe, quand elle parle du féminisme dans Fausse Route, tout le monde lui tombe dessus. Alors qu'elle dit des choses qui sont vachement intéressantes et vachement importantes aussi.
Tu veux dire plus intéressantes que Sylviane ?
Ah, ça c'est clair.
Agazinski.
Sylviane Agazinski, bien sûr, c'est elle qu'il faut mettre au banc, en fait.
Ariane, peut-être qu'il faut qu'on revienne sur aujourd'hui le féminisme en France et combien peut-être Monique Wittig a pu manquer. En tous les cas, toi, c'est ta.
C'est moi, c'est ma sensation, penses, bien sûr. Mm-hmm. C'est vraiment. Je peux pas faire comme s'il n'y avait pas lien de causalité entre la place qu'a pris l'essentialisme en France et le fait qu'elle ait été chassée d'une certaine façon. Il y a concomitance, il y a un lien très fort, quoi, causal, entre les deux. Je sais que je ne suis pas la seule. C'est très libérateur, le propos de Monique Wittig. En plus, c'est beaucoup plus facile à lire que Judith Butler. Franchement, il y a certains chapitres dans la pensée straight qui sont plus denses que d'autres, qui demandent plus de temps. D'ailleurs, moi, en préparant cette émission avec vous, donc en donnant à lire à d'autres, il y a un chapitre qui m'est apparu quelques mois après mes premières lectures, beaucoup plus clair et beaucoup plus fort et porteur de, voilà, d'émancipation. Mais c'est vrai que sur le coup, j'avais pas tout compris, quoi. Ouais. Mais c'est une lecture qui est infiniment plus accessible que celle de Judith Butler. Et donc, n'hésitez pas. Quand ce sera de nouveau disponible, c'est vraiment super intéressant, quoi.
Et c'est
stimulant.
Un truc qui est vraiment hyper subversif. Et en fait, tu comprends qu'on lui ait dit non, chérie, tu vas voir ailleurs, quoi. Parce qu'elle remet en cause vraiment l'organisation même de notre société, ce sur quoi elle se fonde.
Et nous allons en reparler la semaine prochaine.
Exactement.
Ouais, alors la semaine prochaine, effectivement, on rentre peut-être un peu plus précisément dans ce qui fonde un peu sa théorie. Et notamment l'influence qu'a pu avoir le travail de Marx sur l'œuvre de Wittig, parce que finalement, d'une certaine façon, elle prolonge la critique que Marx a pu faire de la société capitaliste. On s'arrête pour aujourd'hui, puisque Tao nous fait des grands signes, on a dépassé déjà, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième émission sur Monique Wittig. Ciao.